RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
Est-ce qu'on m'entend ? Oui, c'est bon, on m'entend ? Bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas trop de retour, mais c'est pas grave. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir un homme qui, en septembre 2012, est venu lier son destin à la ville de Calvi. Un homme au service de Dieu et des paroissiens de Calvi, l'archiprêtre de Calvi, Ange-Michel Vallée. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Meilleurs vœux.
Comment ça va ?
À moi et aux auditeurs. Eh bien, écoutez, je vais bien. Personnellement, je vais bien.
Tout va très bien. Donc, avant d'aborder un petit peu la vie paroissiale, cette année Covid, on fait toujours un petit retour en arrière sur la vie de l'invité. Quel enfant étiez-vous ? Comment s'est passée votre jeunesse ?
Enfant, d'abord je suis né dans le Cap, au tout début du Cap, sur la commune de Brande. Et j'ai partagé mon enfance entre la commune de Brande, le pays de ma mère, San Lorenzo, en Castagniche, et bien sûr Bastia, où je suis arrivé en classe à l'âge de 7 ans à Bastia. Et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au baccalauréat.
Alors, scolarité, un élève sérieux ?
Oui, enfin, un RNL, j'allais dire normal, entre guillemets, voilà. Je n'étais pas un très, très gros bosseur, mais j'ai travaillé normalement, et voilà.
Est-ce que la religion était déjà présente à ce moment-là de votre vie ?
Oui, la religion était présente parce que, bon, entre le Cap, donc je suis né à Ouamo de la Vasina, le village, la chapelle romane du village, San Quilgo, et puis après Bastia, j'ai grandi au quartier Notre-Dame de Lourdes, le Nouveau Port, et disons que j'ai baigné dans la religion. Voilà. Je ne suis pas d'une famille hyper pratiquante, je suis comme beaucoup de familles corses qui ont tenu à me faire faire les étapes, première communion, profession de foi, confirmation, mais disons que librement, j'ai baigné dans la religion, oui.
Et à quel moment se passe le déclic ?
Bon, le déclic, j'y ai pensé entre 8 et 12 ans, pour être honnête, si je me rappelle bien, 8 et 12 ans. Après, entre 12 et 18 ans, c'est passé, bon, l'adolescence, tout ça, le collège, le lycée. Et puis, à l'âge de 18 ans, au cours de la neuvaine de Notre-Dame de Lourdes à Bastia, qui était prêchée par un père franciscain, je peux dire que j'ai eu un déclic, mais j'ai pris mon temps, voilà. Ensuite, je suis parti à Nice, puisque il n'y avait pas de faculté en Corse, on allait donc à Nice. Et donc, j'ai fait quelques années à Nice. Et puis, cet appel, ce choix s'est confirmé. Je suis parti faire le service militaire. Et à la sortie du service militaire, je suis rentré au séminaire.
Au séminaire, donc à Avignon-Marseille ?
Avignon-Marseille, tout à fait. Puisqu'à ce moment-là, on faisait un premier cycle en Avignon et le second cycle à Marseille.
Comment s'est passé d'ailleurs ce déracinement entre les études à la fac à Nice et ensuite ce séminaire, est-ce que ça a été violent ou est-ce que c'était
non,
la découverte du
tout,
monde ?
Pas du tout. Quand je suis parti à Nice, on était un bon groupe de Corse, on s'est retrouvé là-bas à la cité universitaire de la Lanterne, donc on était un bon groupe, on se voyait, après chacun avait un peu ses affinités, mais non, pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé la vie d'Issoise, on allait en Italie, on allait sur une piste de ski, tout ça. Donc, non, ça n'a pas été violent du tout. Et puis, le service militaire, ça a été une expérience importante pour moi. Moi qui suis fils unique, jamais interne, demi-pensionnaire, mais jamais interne. Ça a été très sympa. Et puis après, le séminaire, ça s'est bien passé. J'ai découvert mieux la Provence, Avignon, Marseille, Aix-en-Provence, enfin, toute la région.
Donc, retour sur l'île en 83.
C'est
ordination
ça.
En tant que diacre en 84. Avec, s'en suit les premières fonctions. Fouriagne, la Marane, la Casinque. Ensuite, 7 ans à Bastia, à Saint-Jean-Baptiste, Corté, Le Gnoul. Qu'est-ce que vous retirez de toutes ces expériences, de ces différents endroits de l'île, finalement ?
Une expérience très forte, hein, une expérience très forte dans le sens où j'ai fait mes premiers pas, donc vous l'avez bien relaté, dans la plaine de Bastia pendant 14 ans, puisque je suis arrivé, comme vous l'avez dit, séminariste, puis diacre en vue du sacerdoce ordonné prêtre en 85. Et Mgr Thomas, à l'époque, m'a dit « Tu vas rester là où tu as commencé. » Donc, c'est une expérience très riche, sur beaucoup de plans, les rencontres. Et puis j'ai fait une expérience qui est assez unique, puisque Mgr Thomas m'a confié la construction d'une église. Donc je l'ai accompagné, puisque on était un groupe, une équipe, et donc on a bâti cette église, et ça a été une expérience très 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 enrichissante. Et ensuite, de là, je suis allé à Bastia en 1998. Je suis arrivé dans un contexte qui n'était pas évident. Il y avait eu des problèmes sur la paroisse, il y avait un peu de division. Mais bon, moi, je suis arrivé, il y avait un défi à relever, et ça s'est très bien passé. J'ai passé ces temps-là. Alors, c'est deux ministères différents, hein. La Plaine, c'est un ministère rural et semi-rural. Bastia, c'est plus... fermé, même au point de vue église.
Vous serez...
Même au point de vue église, c'est toute notre ambiance. Mais autrement, moi j'étais à Saint-Jean sur la place du marché, là, dans le centre-ville, et aumônier de l'école Jeanne d'Arc en même temps. Très bonne expérience. Dans la Plaine, j'avais créé deux aumôneries, au collège de Luciane et au collège de Vescovate, qui après s'est transporté à Folil. Donc très riche expérience. Et c'est quand je suis à Bastia, j'étais dans ma septième année, que le nouvel évêque me demande d'être le vicaire général. Et donc là, ça a été une autre expérience. Je suis allé à Ajaccio, puisque l'évêque réside à Ajaccio. Et donc, ça a été une expérience aussi différente. C'est un service d'église, hein. C'est une responsabilité, certes, mais c'est un service à accomplir, puisque l'évêque m'avait demandé ça. Et ben, là aussi, c'est tout un autre ministère, hein. Avant, c'est un ministère... au milieu des gens, en paroisse. Vicaire général, c'est le tenant-lieu de l'évêque. Donc là, le vicaire général, ben, c'est le pompier de service, c'est le trait d'union entre les prêtres et l'évêque, dans le meilleur comme dans le pire, enfin voilà.
Finalement, arrivé en 2012 à Calvi, quels sont les premiers souvenirs calvés?
Ben, c'est un accueil, un très très bon accueil. Voilà, très très bon accueil, un accueil très chaleureux.
Et qu'une paroisse qui est assez impliquée, avec des communautés qui sont tournées vraiment.
Alors,
vers...
Donc, je suis arrivé ici à la mi-septembre. J'ai été installé comme curé par l'évêque le 7 octobre, le jour de Notre-Dame du Rosaire, ici à la cathédrale. Et l'accueil était chaleureux tout de suite. J'ai compris que les gens se prêtaient beaucoup, voilà, prêts à rendre service. Et donc après, donc je suis curé d'un ensemble, hein, l'unité pastorale de Calvi, ça comprend Lumio, Montegro, Sosilia, Calenzana, Umugale, Galeria, tout le Filosorma. Et donc mon prédécesseur avait mis en place des relais paroissiaux. Dans chaque paroisse, il y a quand même un correspondant, quelqu'un qui nous appelle, il y a un décès, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir, voilà, j'ai donné votre numéro. Et puis, il avait constitué une équipe d'animation pastorale, donc que j'ai maintenue. Bien sûr, les personnes se sont renouvelées. Je dois dire que j'ai trouvé un endroit, un secteur que je ne connaissais pas bien. Je connaissais plus le secteur d'Île-Rousse, un petit peu plus. J'ai trouvé un secteur où les gens sont ouverts, voilà. Ça m'a quand même, et même aujourd'hui, voilà.
Ville assez atypique, avec deux confréries qui sont très impliquées. Avec la Légion, qui est historiquement aussi assez impliquée, une communauté portugaise avec la procession pour Fatima. Donc ça, c'est quand même un petit peu cadeau quand on arrive et qu'on trouve une paroisse comme ça.
Oui, alors j'ai d'ailleurs que là aussi, un aspect, j'ai découvert et je vis un aspect de mon ministère que je n'avais jamais vécu avant. Vous avez évoqué la Légion étrangère. C'est-à-dire que je ne suis pas l'aumônier de la Légion, mais les familles des légionnaires, c'est-à-dire... Enfin, légionnaires, et surtout les familles des officiers qui ne sont pas des légionnaires, hein, qui sont donc la plupart sont Saint-Cyriens. Donc, sans être l'aumônier, ils participent à la vie paroissiale. Et quand l'aumônier n'est pas là, les responsables m'appellent pour la Saint-Michel, si l'aumônier n'est pas là, pour présider, pour Cameroun. Et puis malheureusement, quand il y a des décès, par exemple... des hommes qui ont été tués en service, en Afrique. Donc, c'est moi qui assure la pastorale, entre guillemets. Mais l'expérience que je fais, c'est ces familles militaires qui sont pratiquantes et qui sont quand même le dimanche là, participent à l'animation. Et ça, c'est quelque chose que je vis de manière particulière, que je n'avais pas connu avant de venir ici. Et après, ce que vous avez évoqué, tout ce qui est confrérie, avec les autres confréries, Lumio, Montegrosso, Calenzane et compagnie, et puis aussi des équipes d'aumônerie, quand on a fait des week-ends avec les jeunes adolescents, je dirais, des sorties, un pèlerinage à Rome.
On va aborder cette année 2020, marquée par la Covid, avec ce premier confinement où vous aviez communiqué avec le ressenti que vous aviez eu sur ce besoin de rapprochement finalement des paroissiens, alors qu'à un moment donné, il était interdit de venir de célébrer en public, plus de processions, donc l'église fermée, un véritable temps d'arrêt. Quel était vraiment le ressenti des paroissiens à ce moment-là?
Je dois dire qu'il y avait plusieurs types de ressentis. Tout d'abord, on a fait l'entrée en carême le mercredi des cendres. L'église, comme chaque année, pleine, c'est une célébration interparochiale. Là, il y a tout. Le mercredi des cendres a vécu une très belle célébration, jeune et moins jeune, confrérie, pas confrérie. Et puis voilà que deux dimanches après, brutalement, on vous dit, à partir de ce soir, minuit, on ne peut plus célébrer en public. C'était un samedi soir, on ne peut plus célébrer en public. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on avait senti venir qu'on allait être confinés. Et à la demande de quelques personnes, confrérie et pas confrérie, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir le Christ noir?
Moment historique, puisque la dernière fois, c'était en 66.
Voilà. Alors, moment historique, et là, ça a été un temps très, très, très fort. Donc, on a fait ça dans la simplicité, dans la sobriété, parce qu'il fallait pas s'agglutiner. Je crois que c'était un lundi 16 ou 17 mars. Et puis, le samedi d'après, à partir de ce soir minuit, on ne peut plus faire de célébration en public. Alors là, le ressenti, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je n'ai jamais fermé les églises. Jamais. De façon à ce que les gens qui voulaient venir, puisqu'on avait une heure de liberté dans la journée, puissent venir. Je n'ai jamais fermé les églises, ou nous n'avons jamais fermé les églises. Ensuite, avec des personnes pas forcément pratiquantes, mais là aussi qui se sont prêtées volontiers, est-ce qu'on ne ferait pas, la semaine sainte approche, est-ce qu'on ne ferait pas une retransmission? Et donc c'est ce qui s'est fait par les moyens...
Les réseaux sociaux,
les technologies nouvelles. Donc on a fait les rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint et le jour de Pâques. Et puis là, les gens le ressentaient, les gens étaient très contents. On ne l'a pas poursuivi parce qu'au niveau national et régional, il y avait des retransmissions. Nous, on a voulu que la Semaine Sainte, qui est un temps fort pour l'Église, les chrétiens et les calvais, ils puissent participer avec le peu de gens que nous pouvions rassembler. Et ça a été un temps fort. Et puis on mettait un petit billet, un petit message hebdomadaire ou journalier. Et ça a été un moment fort. Après, alors, bien sûr, il a fallu s'organiser.
Moi, je voudrais revenir sur ce moment historique. Le Christ noir, la première fois qu'il a été invoqué, c'était en 1555, lors du siège franco-turc. Moi, devant le live Facebook, moi, j'en avais des frissons. J'avais mon père qui m'avait parlé de ce qui s'était passé en 66. Est-ce qu'on a conscience à ce moment-là de marquer un peu l'histoire de la ville?
Oui, on marque l'histoire de la ville sans se forcer en plus. Et puis c'était l'imprévu, parce que là, Notre-Dame de la Serre, on le prévoit. Il y a 9 jours de neuvaine, toutes les fêtes, on les prévoit. Tandis que là, c'était imprévu. Je crois que le vendredi ou samedi, il y avait le dépôt d'un corps, un défunt à Notre-Dame de Lorette. Et c'est là, à la sortie de cette chapelle, que quelques personnes disent... Monsieur Archiprêtre, est-ce qu'on ne pourrait pas? J'ai dit, on va en parler, puis c'est une bonne question. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je vais vous dire, c'est l'ambiance quand on a pris le Christ noir, mais surtout quand on a été sur le donjon qui domine la ville.
Sur les remparts.
Et sur les remparts, et où on voit bien la place là, derrière le monument, le parking. Moi, ça a gêné encore la chair de poule, c'est de voir tous ces gens. Ils n'étaient pas agglutinés parce qu'il fallait suivre les consignes, mais 2 ici, 3 là, 1 là, 4 là, 2 ici. De voir tous ces gens-là qui regardaient vers le Christ noir, et on a essayé de trouver les mots les plus appropriés pour essayer de, j'allais dire, réconforter les gens. Et puis on avait lancé le mot d'ordre, les gens étaient aux fenêtres, même les gens de l'hôpital, même des gens à Pedramayo qui ne voient pas, mais qui savaient que, bon, on avait un mégaphone assez porteur. Ça a été le moment fort, oui.
Alors, deuxième moment fort, parce que vous avez de la chance finalement, c'est l'ordination en tant que diacre d'un enfant du pays.
Ah oui, ça c'est sûr, ça a été un temps fort de l'année. Alors là, on est sorti du confinement le 11 mai, là on pouvait reprendre les célébrations avec peu de personnes, et puis finalement, donc il fallait préparer l'ordination diaconale en vue du sacerdoce de Pierre Bertone, qui bien sûr est un enfant du pays, comme vous le dites bien. Alors là aussi, ça a été une préparation. Alors, la préparation, j'allais dire, spirituelle, liturgique, il l'avait préparée avec ses amis, comment ça allait se passer. Après, il avait eu le temps, parce que comme le confinement était là, le séminaire a fermé et les séminaristes sont rentrés dans leur paroisse, soit d'origine, soit dans leur paroisse, ceux qui étaient déjà avancés, j'allais dire, plus près du sacerdoce, dans leur paroisse où ils étaient affectés. Alors, Pierre a vécu le confinement ici, à Calvi. Ah, donc, on a pu préparer. Mais après, le mois de juin, il est retourné au séminaire. Donc, tout ce qui est, j'allais dire, spirituel, tout ça, il a eu le temps de s'en occuper. Et nous, on a fait plutôt ce qui était matériel, logistique. Et c'est vrai que ça a été un temps fort, la préparation. Et puis, bien sûr, la célébration. Alors, malgré les normes sanitaires, il ne fallait pas être trop nombreux. Alors, bon, ça a été un peu compliqué. Mais enfin, on s'en est sorti. Et puis, on n'a pas créé de foyer.
Pas de cluster.
Voilà.
Effectivement. Aujourd'hui, puisqu'il y a eu ce classement essentiel, non essentiel, aujourd'hui, je crois qu'on peut être une vingtaine. Comment ça
non,
se passe ?
Non, alors aujourd'hui, voilà. Donc, jusqu'au mois d'octobre, on pouvait se rassembler sans trop de monde, en gardant un peu les distances dans l'église. Et puis, à partir du mois de novembre, second confinement, il nous tombe un avis, pas plus de 30 personnes. Alors, je pense que, bon, là aussi, il faut un peu à tâtons, parce qu'on ne peut pas comparer, par exemple, la chapelle de la Serre, où habituellement on est 30, et l'église de Calenzana, qui est la troisième église de Corse en superficie. Alors, donc, on a essayé de... Les évêques, quand même, ça a un peu bougé. Et donc, après, si vous voulez, on est passé de 30 personnes à un banc sur deux occupé, et sur un même banc, deux personnes avec une distance d'un mètre. Donc, on arrive à... Donc là, depuis la fin novembre, on a pu se rassembler. Et puis, alors, ce qu'il a fallu imaginer, c'est que pour Noël, on sait qu'il y avait du monde, puisque c'était le seul soir, il n'y a pas le couvre-feu. Alors, on a multiplié les célébrations. Voilà. Donc, la nuit de Noël, on était quatre prêtres. Par exemple, ici, à Calvi, on a ajouté... Il y avait déjà deux célébrations de prévues. On en a ajouté une pour faire deux crèches vivantes. Après, il y a des prêtres. Hein, il n'a dit qu'une messe parce qu'il était ailleurs, mais il a pu célébrer. On a ajouté une messe à Zille. Donc, la nuit de Noël, on s'est multiplié. Et ça s'est bien passé. Là aussi, pas de foyer.
Alors, ça n'a pas empêché cette année assez compliquée de s'impliquer. De s'impliquer notamment auprès des gens qui ont été touchés au Liban par cette explosion gravissime. Donc là aussi, initiative très importante qui a été assez suivie.
Oui. Alors, tout d'abord, il y a ce qui... Dans toute chose, en Corse, il y a un dicton qui dit « On se conche, on va jouer à conche. » D'un mal, il peut en sortir un bien. C'est-à-dire que dès que la pandémie a éclaté, on s'était proposé, avec les confrères, d'autres, puis des personnes qui ne sont pas confrères, de faire une action auprès de l'hôpital. Alors, ils nous demandaient des masques. Des masques, on n'en avait pas. On a proposé d'acheter un appareil de réanimation. Ils ont dit, mais on ne peut pas, il faut quelqu'un qui sache s'en servir. Alors, un médecin un peu de haut niveau nous a conseillé de participer à un achat d'oxymètres. Donc là, les confréries se sont impliquées, des confréries de toute la Balagne. Hein. Voilà. Mais enfin, là, l'idée est partie un peu d'ici. Et après, il y a un jeune prêtre qui est originaire du Liban, mais qui est ordonné prêtre pour le diocèse d'Ajaccio. Il est incardiné en Corse. Et alors, après cette explosion du 5 août, il a suscité des points. Et Calvi a été un des points. Et c'est vrai qu'à Calvi, ça a très, très bien fonctionné. Là, à un moment donné, les gens amenaient tellement de choses qui était demandé, parce qu'on pouvait pas amener des vêtements à cause du Covid, parce qu'il aurait fallu après arriver là-bas, les teintureries, tout ça. On a surtout amené de la nourriture, puis des choses pour les gamins, de tout ce qui est paramédical. Et ça a tellement bien fonctionné que il a fallu faire appel à des gens qui allaient descendre tout ça sur Ajaccio. Et donc là, je peux remercier François Aquavive, un des frères de Leclerc, qui a pris ça en main avec, je crois, la maison d'Harry. Et ils ont acheminé ça sur Ajaccio et ça s'est très très bien passé. Ça a été aussi un moment fort, voilà. Et puis les gens ont amené dans la discrétion, voilà. Voilà. Le presbytère était le point de chute, mais dans la discrétion.
Alors là, il y a bientôt Pâques qui arrive à grands pas.
À grands pas.
C'est vrai qu'il n'y a pas trop de visibilité. Comment ça risque de se passer?
Alors actuellement, nous avons ce couvre-feu à 18h. Alors moi, ce week-end, dans mes annonces, j'ai dit essayons et dites-le de respecter ce couvre-feu. Parce que si le couvre-feu est bien respecté, d'après les spécialistes, on éviterait un troisième confinement. Je dis, si on peut éviter le troisième confinement, ça serait bien. Parce que si on retombe dans le troisième confinement, alors là, ça va encore être une complication. Parce que dimanche 17 janvier, jour de la Saint-Antoine-Abbé, beaucoup de monde, j'ai dit, dans un mois, c'est l'entrée en carême. C'est les cendres. Et si on loupe ce couvre-feu, on risque de tomber encore dans le confinement. Parce que Pâques est de bonne heure cette année. Pâques est le 4 avril. Alors, pour le moment, eh ben, comme je dis dans beaucoup de choses, on est comme freiné, on avance un peu à vue. Voilà, voilà.
On va aborder une partie de l'émission, c'est les petites questions qui fâchent. Alors, j'ai été gentil. Hein,
Pour le moment, très gentil.
Déjà, normalement, je tutoie les invités, mais là, je n'y arrive pas. Alors, encore, s'il y a des gens qui pratiquent, est-ce que malgré tout, depuis que vous avez commencé, il y a une baisse d'intérêt, une baisse des paroissiens. Est-ce que vous l'avez remarqué?
Ici à Calvi.
Ou en Corse en général, depuis que vous officiez?
Écoutez, moi, depuis que j'officie, c'est un peu à deux ou trois vitesses, j'allais dire. Hein. Bon, vous avez des gens qui pratiquent régulièrement. Je veux dire que ce n'est pas le grand nombre. Après, ça dépend des endroits. Quand j'étais, par exemple, à l'église nouvelle Sainte-Dévote à Borgo, c'était un endroit où on pratiquait. Voilà. Les dimanches ordinaires, c'est moyen. Ensuite, vous avez les grandes fêtes, les grands moments de l'année. Là, les gens vont pratiquer. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, du temps de Monseigneur Thomas, qui m'a ordonné prêtre, qui a passé 13 ans en Corse et qui est parti en janvier 87. Il disait, le Corse, c'est le pratiquant des temps forts de l'année. Alors, je dois dire que après, c'est aussi comment le curé anime ses communautés. Si le curé anime, je dirais, avec d'autres, pas seul, mais je ne parlerai pas de moi personnellement, mais puisque vous me posez la question avant d'être ici, il faut que le prêtre soit un bon animateur près des gens. Et il ne va pas en faire peut-être des pratiquants de tous les dimanches, mais il va en faire des gens qui vont graviter autour de l'église et qui vont s'impliquer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui. Ensuite, sur la vie d'un homme d'église, il y a des célébrations qui sont heureuses, baptême, mariage. Est-ce que on arrive à s'habituer à celles qui sont malheureuses, c'est-à-dire les décès?
Vous savez, quand on est ordonné prêtre, on ne nous donne pas des recettes. Hein. On nous demande d'être près des gens dans notre formation. Donc, il faut partager la vie des gens. Comme dit saint Paul, j'ai rire avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire que nous, on va garder toujours une certaine distance, même qu'on s'implique dans les moments heureux, comme les baptêmes, les communions, les mariages. Les décès, il faut être près des gens en gardant la bonne distance. C'est-à-dire que on ne peut pas, ne pas être des hommes. Et je parle des chrétiens, des hommes et des femmes d'espérance. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a aussi c'est gradué. On ne peut pas enterrer une gamine qui est morte d'une leucémie à 7 ans comme on enterre un jeune de 18 ou 20 ans d'accident de moto ou comme on enterre une personne qui a près de 100 ans. Donc là, c'est pas la même approche. Il faut toujours être très près des gens et en même temps toujours apporter cette note d'espérance puisque pour nous, chrétiens, la vie n'est pas détruite, elle est transformée.
Et ensuite, sur ces 30 ans de...
35 ans.
Est-ce qu'il y a eu des moments de perte de foi?
De perte de foi, non. Mais il y a des questions.
Des doutes.
Il peut y avoir des questions. pas tellement des doutes, non. Moi, j'ai jamais douté parce que pour un chrétien et plus forcé, et pour un prêtre d'autant plus, hein, nous, on croit en Dieu, bien sûr, mais celui qui est notre compagnon de route, c'est le Christ. Parce que j'aime beaucoup ce passage de la lettre de Saint Jean quand il dit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Celui que nous avons vu, c'est celui qui est devenu chair, le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire le Christ. » Donc, des doutes, non. Le Christ est le compagnon de route, on ne doute pas. Mais il y a des questions, bien sûr. Il peut y avoir des questions, par exemple, justement, j'évoquais tout à l'heure, un gamin, une gamine qui meurt d'une leucémie. On est démunis. Bon, après, malheureusement, il y a eu des choses terribles. Deux ou trois reprises, il m'est arrivé d'enterrer le frère et la sœur morts dans le même accident de voiture. Et ça, c'est des trucs qui vous, pendant 24 heures, qui vous assomment. Hein. Je disais tout à l'heure, il faut garder un certain recul, mais il y a des choses comme ça qui vous assomment. Bon, on aurait envie de dire, Seigneur, où tu es. Bon, mais après, bon, bien sûr, il y a la vitesse, il y a un problème technique. Voilà, il y a des choses aussi qui interviennent qui ne sont pas du Seigneur.
On va aborder des petites questions flash. On va terminer là-dessus. Si vous étiez un trait de caractère, lequel serait-il ? Une qualité ?
Moi, je crois que je suis un tempérament plutôt optimiste. J'aime chanter. Alors, des fois, même dans le presbytère, on dit « Oh, mais là, c'est là, mais vous chantez. » Ben oui, il faut un peu se donner du courage.
Si vous étiez un défaut ?
Un défaut, je crois, impatient des fois, impatient.
Est-ce que vous avez un héros de fiction ou de vie réelle ?
Alors, expliquez-vous un peu mieux, un héros ?
Un héros, est-ce que vous avez quelqu'un comme ça qui vous suit depuis peut-être l'enfance ? Un héros de livre ou de BD ou de cinéma ?
Non, moi j'ai beaucoup aimé comme chanteur. Il y a quelques mois, il y avait une émission sur lui, Brassens. Moi, j'ai beaucoup aimé Brassens, qui pourtant n'était pas...
Oui.
Une grenouille de Benici. J'ai beaucoup aimé Brassens. Moi, j'aime bien quand il y a des reportages sur Brassens. Oui, oui.
Ce que vous détestez le plus chez l'homme.
Que ce que je déteste le plus.
Chez l'homme, oui.
Le manque de vérité.
Le manque de vérité.
Quelqu'un qui n'est pas vrai.
La chose dont vous êtes le plus fier.
Le plus fier. Ouh là là, être fier de quoi ? Je ne sais pas, moi. Le plus fier, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je n'ai pas de difficulté à rencontrer les gens. À mettre les gens ensemble, voilà.
Est-ce que vous avez une phobie ?
Une phobie ? Alors, une phobie, enfin, je sais ce que c'est une phobie, mais je ne vois pas bien, non, si j'ai une phobie ou pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme phobie ?
Ah, les serpents, ça revient souvent. Ah.
J'aime pas les serpents.
Ah, ben,
j'aime
voilà.
pas les serpents.
Et est-ce que vous avez un objet qui vous suit depuis longtemps ? Quelque chose, un objet fétiche, quelque chose qui vous suit depuis très longtemps ? Qui vous accompagne dans vos voyages.
Moi, j'ai toujours mon chapelet dans la poche du pantalon gauche.
Et je vais avoir une dernière question.
Mais pas comme fétiche, hein. Ah ouais. Je l'ai avec moi toujours.
Je vais avoir une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant que vous étiez à 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Un enfant de 10 ans, qu'est-ce que je dirais ? De bien écouter ce que disent les parents, les formateurs, les éducateurs, voilà.
On a terminé là-dessus. Merci beaucoup d'être venu. C'était un moment très sympa. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens ? Bien sûr, le meilleur.
En début d'année, nous sommes le 18 janvier, on souhaite encore les vues. Moi, ce que je peux souhaiter, c'est qu'une bonne et heureuse année, pace et salute, parce que souvent ils disent salute et pace. Non, pace et salute, parce que la paix, c'est la paix intérieure, la sérénité, qui aide aussi dans la santé. Voilà. Et moi, je voulais vous remercier vraiment, sincèrement, de m'avoir invité, d'avoir pu partager avec vous ce moment.
Eh bien, écoutez, c'était réciproque. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, lundi, 10h30, comme d'habitude. Bonne journée.